Marc chapitre 4. Nous étudions cet évangile, nous voyons que avec Jésus arrive le royaume de Dieu sur terre. Arriva le royaume de Dieu sur terre. Et à un moment donné, Marc nous raconte que Jésus enseignait au sujet de ce royaume. À quoi ressemble le royaume de Dieu qui est venu vous chercher, dans lequel vous êtes appelés? Et Jésus utilise des paraboles pour nous expliquer à quoi Dieu vous appelle par l'évangile. Et aussi, comment ce royaume vient, parce qu'il vient d'une manière un peu inattendue. Et maintenant, Marc va nous raconter que, après avoir enseigné à quoi ressemble le royaume de Dieu, Jésus manifeste le royaume de Dieu par sa puissance sur la nature. Il va calmer une tempête, par sa puissance sur la mort. Juste après, il y a 5 miracles affilés. Il va ressusciter un mort. Il va chasser un démon, sa puissance sur le Satan, donc sur la nature, la mort, Satan, sur la maladie, parce qu'il va guérir 2 personnes malades. Et de cette manière, Jésus manifeste, fait venir, exprime le royaume de Dieu, qui est cette puissance du monde à venir qui vient tout rétablir, tout remettre d'aplomb. Tout ce que le péché a pu gâcher, détruire, toute cette force dans ce monde qui donne la maladie, qui fait mourir, qui fait que la nature devient une menace pour l'homme et pas quelque chose de bien, toujours. Attention les écologistes, la nature est quelque chose à réprimander parfois. Et Jésus va le faire dans cet événement aujourd'hui. Mais de toute façon, donc le Seigneur vient, le royaume de Dieu vient pour que Dieu affirme ses droits et qu'il remette les choses comme il les veut. Donc Jésus va commencer à faire ça déjà. Ce n'est pas juste la fin. Le royaume est déjà venu maintenant. Et ça, c'est le message. Ce qu'on attendait pour la fin est venu en l'échantillon bien avant, de manière provisoire. Donc nous allons lire dans ce passage, Marc chapitre 4, et les versets 35 jusqu'à la fin du chapitre. Rappelons-nous que Marc est le secrétaire un peu de Pierre. On nous dit les premiers chrétiens qui étaient des gens qui connaissaient les apôtres et dont nous avons encore les écrits, nous disent que Marc a écrit son évangile à partir de ce que l'apôtre Pierre lui a dit. Okay? Marc a accompagné Pierre à un moment donné dans son ministère. Ce même jour, sur le soir, donc le jour où Jésus a passé toute la journée à enseigner la foule, par les paraboles. Jésus leur dit, passons sur l'autre bord, donc de la mer de Galilée, ce grand lac en Israël. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui, ce qui n'est d'aucune importance dans l'histoire. Ce détail n'a aucune importance, on n'entend plus rien parler des autres barques. Ce qui montre que c'est sans doute un témoin oculaire qui est derrière ce récit. Parce que quand vous voyez quelque chose, vous décrivez ce que vous avez vu, même certains détails qui ne sont pas importants, vous les dites parce que c'était comme ça. Il y avait d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. C'est-à-dire, la barque se remplissait déjà. Au point Oui, pardon, au point qu'elle se remplissait déjà, oui. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. La partie arrière de la barque, il y avait une place où quelqu'un pouvait donc s'allonger et dormir. Il y avait toujours un coussin parce que les pêcheurs faisaient leur travail sur la mer de Galilée, surtout la nuit, à cause des conditions de cette mer. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi! Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, on peut imaginer que le Seigneur parle avec autorité à la tempête effroyable. Et il tourne vers eux et avec une autorité égale, mais empreinte d'amour, il dit tout simplement: Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Maintenant, ils sont plus paniqués que pendant la tempête. Saisis d'une grande frayeur à cause de Jésus maintenant et sa puissance. Et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Il va falloir que je recule un peu, sinon je vais. Nous allons, dans un premier temps, considérer la puissance de la mort sur une mer déchaînée qui confronte Jésus et ses disciples. La puissance de la mort, parce que c'est ça, hein? Ils sont menacés de mort. C'est une puissance mortelle qui se déchaîne. Et ensuite, nous allons considérer Jésus qui confronte la puissance de la mort déchaînée dans cette mer en furie, confrontée par la tempête. Mettons-nous dans le bain. D'abord le départ. Nous lisons dans le verset 35 que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit. C'est très important cela. Ce même jour de l'enseignement sur les paraboles, la nature du royaume, Jésus leur dit: Passons à l'autre bord. Marc commence cet incident d'une manière très, très spéciale et inattendue. Il aurait pu dire tout simplement: Ce même soir, Jésus et ses disciples allaient à l'autre bord de la mer et une tempête s'est soulevée et Jésus a fait ceci et cela. Pourquoi fallait-il dire que tout cet événement a commencé par une parole de Jésus? Passons à l'autre bord. Nous verrons tout à l'heure. Nous voyons que ça avait été une journée très longue pour le Seigneur. Dans le verset 1 du chapitre, nous lisons que Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Et il enseigne. Il y a tellement de gens qu'il ne peut pas enseigner à terre. Il est obligé de se mettre dans la barque pour pouvoir avoir un peu de place, un peu de marge, pour ne pas être pressé par la foule. Et il se donne, il s'investit en enseignant pendant des heures, sans doute. Et le passage nous dit que dans le verset 36, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Qu'est-ce que ça veut dire? D'autres versions disent, les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. Ça, c'est peut-être mieux. Ou bien, une autre version, ils l'emmenaient comme il était dans le bateau. C'est-à-dire, Jésus n'a pas pu prendre un repas. Il n'a pas pu se reposer un moment, quitter la barque, aller par terre, se rafraîchir, se reposer, faire une petite sieste. Non, il était dans la barque et sans qu'il en sorte, ils l'emmenèrent. Nous pouvons bien comprendre alors pourquoi, arrivé au milieu de cette mer, parce qu'il faut comprendre que le lac de Galilée n'est pas exactement un lac typique, c'est plus comme une mer à l'intérieur des terres. 160 km carrés de surface, 5 km et demi par 2 km et demi, tu ne vois pas l'autre bout du lac. C'est un peu comme le lac de Genève. Quand vous êtes à certains endroits, vous avez l'impression que vous êtes sur la mer. Il y a des petites vagues et vous ne voyez pas à l'autre bout. Et donc il a fallu du temps, des heures pour il n'y avait pas de moteur pour qu'ils arrivent à l'autre bout du lac. Et Jésus s'endort profondément parce qu'il est très fatigué. Nous devons toujours nous rappeler que Jésus est entièrement et réellement homme, autant comme que vous. Il doit vivre et subir les mêmes contraintes et les mêmes limitations dans son corps et dans son âme humaine que vous-même. Et quand il a donné, et parfois tard le soir en guérissant des gens, et puis toute la journée le lendemain, au soleil, dans la barque, devant la foule, en parlant fort, parce qu'une grande foule n'entend pas facilement, et quand on parle fort pendant longtemps, on se puise complètement. Et le Seigneur est sans doute complètement lessivé. Voilà pour le départ. Maintenant, le péril. Nous sommes toujours en train de parler du fait que les disciples sont confrontés par une mer en furie et par la puissance de la mort. Maintenant, le départ, après le départ, le péril. Nous lisons dans le verset 37 ceci. Je vais le lire dans une autre version. Il s'éleva une forte bourrasque. D'autres versions disent un tourbillon. Et les vagues se jetaient dans la barque. Là, on comprend bien. Les vagues se jetaient au-dessus des côtés de la barque, au point où elles se remplissaient déjà. La mer de Galilée se trouve à 210 mètres en dessous du niveau de la mer, comme on le dit. C'est une mer, mais qui est en dessous du niveau de la mer. Elle est entourée de petites montagnes, sauf vers le sud, sud-ouest. Et les tempêtes violentes et les vents violents sont bien connus. Vous pouvez comprendre la situation quand les vents soufflent dans la région de la Galilée. Et vous avez donc ces montagnes autour du lac, le vent doit aller quelque part. Et souvent, ce vent qui est rebuté par les montagnes descend, en soufflant contre les montagnes, descend et vient par le sud-ouest, dans le trou du bassin, c'est un bassin, vient par le sud-ouest et se précipite dans cette mer. Ça fait des tourbillons, ça fait des bourrasques violents. Et normalement, dans l'après-midi, il est impossible ou très difficile de faire de la pêche. C'est pourquoi la pêche se faisait la nuit. Mais si jamais une bourrasque arrivait la nuit, c'était encore pire. Et voilà ce qui s'est passé ce jour-là et ces hommes expérimentés sur cette mer. sont absolument paniqués et ils voient que la mort est tout près, tout près. Le départ, le péril, maintenant la réaction des disciples. Le verset 38. Nous lisons que Marc nous raconte, d'après les propos sans doute de Pierre, qui était là, qui était dans la barque, et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Est-ce que le Père a ajouté à son sommeil un peu de profondeur pour qu'il ne se réveille pas au milieu de cela? Ou parfois, les gens ne se réveillent pas au milieu des trucs incroyables. Mon fils est un peu comme ça. Je suis parfois très étonné de ce qu'il ne se réveille pas. Bousculé, tu le pousses, tu cries vers lui, et il n'entend rien. En tout cas, il dormait encore. Et les disciples viennent vers lui avec ces propos et cette attitude-là. C'est intéressant. Maintenant, les disciples, comme nous d'ailleurs, ils ont peur. Mais cette peur est une peur sans foi, une peur sans confiance dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui vous arrive à vous quand vous vivez dans la peur de quelque chose? La mort, la maladie, la pauvreté, la perte de boulot, etc., un danger pour votre enfant ou pour vous-même, et que vous ne faites plus vraiment confiance à l'Éternel. Eh bien, nous voyons que la conséquence de cette sorte de peur est triple dans le cœur et les actions des disciples. La première chose que nous voyons dans ce verset 38, c'est que ils disent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Le nous, c'est pour la plupart nous, les disciples. ils sont pris de panique, préoccupés par leur sécurité. Nous. Et quand vous avez peur, vous ne pensez pas aux autres, vous ne pensez pas aux considérations plus larges que vous-même, vous pensez qu'à vous, n'est-ce pas? La mauvaise peur sans foi nous centre sur nous-mêmes. Et la deuxième chose, c'est que ils doutent du caractère du Seigneur et ils ont des pensées mauvaises, un mauvais œil, on dirait, envers le Seigneur. Ne t'inquiètes-tu pas? Est-ce que tu ne te soucies pas pour nous? Est-ce que tu es un Seigneur sans cœur, sans amour, sans fidélité, sans égard pour nous que tu dis aimer? Voilà les pensées qui sont dans le cœur. Et nous aussi, quand nous avons cette peur. Où est Dieu? Les gens, c'est la chose la plus courante. Ils disent, où est-ce que Dieu était quand telle chose est arrivée? N'est-ce pas? Et nous blâmons Dieu. Et nous accusons Dieu. Et nous jugeons Dieu, et nos cœurs sont remplis de mauvaises pensées vis-à-vis de lui, projetant sur lui un caractère sans amour et sans bonté. C'est horrible, cette peur pécheresse et mauvaise. Et la troisième chose, c'est simplement qu'ils sont dans la panique et dans l'angoisse. Il n'y a plus de sang-froid. Et c'est ça que, quand on n'a plus confiance dans l'Éternel Dieu, pour nous raffermir le cœur, nous ne réfléchissons pas. Ils n'ont pas réfléchi à ce qu'il fallait faire, à ce qu'il fallait, comment il fallait voir cette situation. Ils se sont précipités en réveillant Jésus, en le traitant de n'importe quoi, complètement pris par leur panique. Et ça, nous avons aussi expérimenté. Et c'est horrible. Horrible. Les disciples sont horribles. Le plus grand problème n'est pas la tempête. Le plus grand problème se trouve dans la barque. Nous avons vu le départ, le péril, la réaction des disciples. Et maintenant, Jésus confronte, notre deuxième grand point, Jésus confronte la puissance de la mort dans une mer déchaînée. Nous lisons dans le verset 39 ceci, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le Fils de Dieu commande et donne des ordres à la nature. À la nature dans toute sa puissance. Nous nous rappelons des images que nous avons vues lors du tsunami et nous avons compris que la puissance de la nature est incroyable. Devant une telle puissance, nous réalisons vite que nous sommes absolument rien. J'ai vu récemment des images d'une tornade qui s'est abattue sur un village aux États-Unis et les images étaient assez spectaculaires. Voilà une voiture qui est sur le toit d'une école parce que le vent l'a pris et l'a projeté des centaines de mètres et l'a placé en haut de l'école. Il y avait des mobil-hommes qui étaient ballottés comme des allumettes, mais vraiment comme des allumettes. Des maisons entières complètement soulevées et détruites. Et devant une telle puissance, on réalise que dans la nature, il y a une puissance énorme. Et pourtant, devant une puissance pareille, le Seigneur se tient debout et il donne des ordres à la nature inanimée et impersonnelle. Et Pierre nous dit à travers Marc, et le vent cessa et il y eut un grand calme. Au moment même de l'ordre de Jésus, tout s'est changé. De manière tellement puissante, cette parole est partie et a détruit la puissance, a anéanti, a dompté la puissance des vents et de la vague, de manière à ce que les disciples soient saisis de frayeur, non pas devant la tempête, mais devant la puissance de cette parole de Jésus. Imaginons quelqu'un devant le tsunami qui se tient debout et dit « Arrête-toi, tu viens là et pas plus loin. » Et boum, le tsunami s'arrête là et fléchit. Ça, c'est la puissance d'un autre monde. Ça, c'est une puissance qui n'est pas de cet ordre de choses, qui n'appartient pas à ce monde, à cet âge. À cette vie. Une telle puissance n'existe simplement pas, nulle part. C'est la puissance de l'éternel Dieu et d'un autre monde. Donc voilà ce que Jésus fait. Et maintenant, nous voulons arriver vraiment au cœur de cet événement. Pour comprendre quelle est la leçon. Les versets 39 et 40, je relis le 39, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, ayant parlé au vent, il parle aux disciples, « Pourquoi avez-vous si peur ?» Comment n'avez-vous point de foi? Le résultat de tout cela, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ça, c'est le résultat de l'événement. Calme sur la mer, frayeur chez les disciples. Ils sont saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Si. Je pense que typiquement, quand on entend des messages sur Jésus qui calme la mer, ça va un peu comme ceci. Le message pour nous, la raison pour cet événement et pour son inclusion dans l'Écriture, c'est pour nous montrer que Jésus est avec nous dans les orages de notre vie, n'est-ce pas? Quand la tempête vient dans ma vie, les problèmes, les dangers, les épreuves, je dois faire confiance à Jésus parce qu'il est dans la barque avec moi. N'est-ce pas? Et on nous enseigne que cet événement est donc typique de ce qui nous arrive dans nos dangers, dans les épreuves, et que cela enseigne une leçon universelle pour notre vie de tous les jours. En réalité, ce passage enseigne presque exactement le contraire. Et j'espère que vous allez être complètement d'accord avec moi, non pas que Jésus n'est pas avec vous, non pas qu'il ne vous accompagne pas dans le... et non pas qu'il ne faut pas faire confiance à lui, tout cela est vrai. Mais nous devons nous mettre dans la place des disciples pour voir ce que eux, ils ont retenu, comment eux, ils se souvenaient de cet événement et qu'est-ce qui les a frappés le plus ce jour-là. Et nous allons voir si c'est complètement autre chose. D'abord, pour que vous puissiez comprendre, et le problème, c'est que nous ne regardons pas l'Évangile, la Bible, selon Dieu et son plan et le royaume de Dieu. Nous regardons, nous sommes tellement incurablement égoïstes. Et nous regardons tout à travers nos problèmes, notre situation, et nous essayons de tordre les choses pour que ça s'applique à nous. C'est pour moi que ça arrive. Et nous voulons voir que il y a complètement autre chose ici. D'abord, vous devez comprendre que cet événement n'est pas typique. Cet événement n'est pas un jour typique dans la vie des croyants typiques. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est dans une barque physiquement en tant qu'homme avec ses gens. Ça m'est jamais arrivé. N'est-ce pas? Ça m'est jamais arrivé. Et Jésus parle au vent et aux vagues et dompte la nature visiblement devant les yeux de ses disciples. Ça, c'est pas un événement qui va vous arriver. Jésus montre quelque chose et c'est ça que nous devons comprendre. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Parfois, c'est ça le problème quand nous lisons mal la Bible. Nous ne savons pas quelle heure il est dans ce passage, dans cet événement. Quelle est l'heure sur l'horloge de Dieu? Ce n'est pas un temps typique. Ce n'est pas tes moments, les moments que tu vis aussi. C'est un moment qui s'est passé une fois et c'est tout dans l'histoire. Dieu le Fils est venu, il apporte le royaume de Dieu, il l'établit sur la terre. Et pendant 3 ans, vous comprenez bien, pendant 3 ans, Jésus donne un échantillon visible de ce que c'est que le royaume de Dieu. C'est-à-dire ce qui va venir un jour à la fin du monde et tout ce que le royaume de Dieu va faire en guérissant le peuple de Dieu, en ressuscitant les morts, en rendant la nature apaisée et obéissante, en remettant tout d'aplomb par une grande puissance. Et en détruisant tout ce que le royaume des ténèbres a mis dans ce monde, tout cela va arriver à la fin. Mais Jésus vient donner juste un échantillon provisoirement avant, et seulement pendant 3 ans. Et nous voyons que pendant 3 ans, là où Jésus passe physiquement, c'est le royaume de Dieu, c'est la fin du monde qui arrive. La fin du monde est déjà arrivée, vous le saviez? La fin du monde est arrivée dans un échantillon partout où Jésus passait pendant 3 ans. Parce que les morts ressuscitaient, les gens n'avaient plus de maladies, les péchés étaient pardonnés, les tempêtes étaient calmées, ils ne pouvaient plus tuer, mais seulement là où Jésus était. Le royaume de Dieu était localisé en lui. D'accord? Il y avait d'autres gens d'autres jours sur la mer de Galilée qui mouraient, même des croyants, par des tempêtes. Et le Seigneur était avec eux et il les a laissés mourir. Mais là, ce n'est pas typique, parce que Jésus n'est pas en train de montrer ce que Dieu fait tout le temps pour tous les croyants. Il est en train de montrer ce qu'il fera à la fin, quand il viendra et quand le royaume arrive dans sa plénitude. Il est en train de donner un échantillon. Et vous savez bien, comme je l'ai dit l'autre fois, qu'un échantillon, ce n'est pas ce qui arrive habituellement, universellement. Quand vous avez une bande-annonce pour un film, c'est 6 mois avant le film. C'est juste une partie. Et là, vous ne pouvez pas aller au cinéma la semaine prochaine et voir le reste. Vous ne pouvez pas. Il y a un temps entre la bande-annonce et le film, et vous ne pouvez pas jouir du film dans cet intervalle. Ou bien les prémices. Dans le chant, nous avons vu que les prémices sont exceptionnelles. C'est des parties qui mûrissent avant la moisson. Et vous allez les cueillir, vous les mangez, mais c'est un échantillon. Et il y a un intervalle où vous n'allez rien manger de ce champ. Vous n'allez pas manger. Vous devez attendre. Ça, c'est annonciateur de quelque chose qui vient. Vous savez que la moisson va venir. Ça va être plus grand que les prémices. Mais du même genre que les prémices. Mais les prémices annoncent. Et Jésus annonce en calmant la tempête, pas ce qu'il va faire maintenant, tous les jours dans ta vie, mais ce qu'il va faire quand il reviendra. C'est ça le message. Cette puissance n'est pas la puissance que nous expérimentons tous les jours dans la vie chrétienne. Disons-le. Mais c'est la puissance qu'il a. Et c'est la puissance qui est annoncée dans l'Évangile comme celle qui va agir pour vous. Si vous êtes en Christ un jour. Et qui est déjà, je suis d'accord, en vous à l'œuvre, spirituellement et invisiblement, pour vous transformer. Mais dans le monde physique, non. Pas dans le monde physique, dans les tempêtes. Ça, il faut attendre. Ça viendra. Nous pouvons le dire un peu autrement. Jésus les reproche, n'est-ce pas, de quoi? Quel est son reproche? Il le reproche de ne pas avoir de la foi. Mais quelle foi? Jésus n'est pas en train de le reprocher de ce que vous êtes croyant, moi je suis avec vous, vous devez croire qu'aucun danger ne peut vous tuer. Tous les croyants à toute époque. Non, parce que les croyants meurent sur la mer. Non, ce n'est pas une telle foi. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Jésus est en train de parler de la foi dans le royaume qui est apparu en lui. Est-ce que vous ne croyez pas que le royaume est arrivé en moi et qu'on est dans une situation exceptionnelle, une fois pour tout? Le royaume, vous êtes dans l'échantillon. Est-ce que vous ne croyez pas ça? C'est ça que Jésus veut dire. Et c'est pour ça que Marc nous précise que Jésus a dit ce soir-là, passons à l'autre bord. Pendant 3 ans, toute parole qui sort de sa bouche n'est pas une parole ordinaire. Ça s'insère dans le projet du royaume qu'il incarne. Il est en train de... Toute action qu'il fait, toute parole qu'il prononce, tout geste, est un échantillon du royaume. Et quand il dit « Allons de l'autre côté », c'est le royaume, le roi du royaume qui dit cela. Qui peut arrêter le royaume de Dieu? Jésus est en train de dire « Vous n'avez pas de foi dans ce que c'est que le royaume, dans ce que qui c'est que le roi du royaume. Est-ce que vous n'avez pas compris? Car qu'est-ce que le royaume? Je vous ai déjà montré par des miracles que le royaume, c'est le roi du ciel qui vient pour conquérir le diable, le péché, la maladie, la mort, le chaos de la nature, tout ce qui n'est pas d'aplomb tout ce qui est à l'envers à cause du péché, le royaume va tout remettre d'aplomb et je vais vous en donner un échantillon maintenant. Vous n'avez pas compris ça? Là où je passe, le chaos ne peut plus exister. Le malade ne peut plus exister. La mort ne peut plus rester dans le tombeau si je lui dis de se relever. N'avez-vous pas vous compris que je suis en train de vous montrer que je viens pour conquérir tout et tout? Comment est-ce possible alors qu'une tempête puisse coexister avec cette expression de mon règne? Je termine. Je crois que vous avez bien compris que il ne s'agit pas de Jésus est dans ma barque avec moi. Jésus n'est pas dans votre barque, de la même manière que là. Jésus montrait ce que le royaume va faire un jour, ce qu'il est capable de faire sur la nature même. Et les disciples ont été laissés non pas avec un sentiment réconfortant, oui, Jésus est toujours dans notre barque, c'est tellement bien dans nos épreuves, tout va aller bien. Ils étaient laissés et toute leur vie avec ce souvenir, non pas avec mes épreuves, mais lui. Et ce qu'il va faire un jour, parce qu'on l'a vu faire ça un peu une fois. On a compris le royaume ce jour-là. Dieu n'est pas notre boy. Et c'est ça notre problème, n'est-ce pas? Nous, souvent, sans le savoir, sans en être complètement conscient, nous croyons que Dieu doit même carrément exister pour que ma vie, mes circonstances, se déroulent comme je le veux. Et donc, nous exploitons Dieu. Dieu est un moyen que nous utilisons pour arriver à ce que nous voulons dans notre vie. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu est Dieu. Et il est en train de nous montrer ce qu'il est, ce qu'il va faire pour sa gloire. Et il veut que les disciples comprennent, et ils comprennent là. Ils sont saisis de frayeur. Et vous voyez que tout est remis d'aplomb à eux. Au début, ils étaient préoccupés par eux-mêmes, nous périssons. Maintenant, ils ne pensent pas à eux-mêmes. Ils disent, qui est celui-là? Qui est-il? Ils sont saisis de Jésus-Christ. Et ils oublient leur propre vie. C'est la première chose que le royaume fait en nous. Deuxièmement, c'est pas grave, elle joue avec Michel, je crois. Deuxièmement, les disciples reprochaient Dieu, le Fils de Dieu. Est-ce que tu te soucies pas de nous? Et maintenant, ils ont le sentiment, enfin, c'est eux qui sont réprimandés. Où est votre foi? Pourquoi avez-vous peur? Vous ne croyez pas dans le royaume? Quelle folie! Quel insensé vous êtes! Et la leçon pour nous, c'est que nous faisons la même chose souvent, n'est-ce pas? Nous ne vivons pas comme des gens qui savent que le royaume est venu s'établir et il revient à côté de ce royaume, tout est insignifiant. Tout est insignifiant. Ils ne sont pas ceux qui reprochent le Seigneur, ils sont ceux qui se reprochent et ils sont saisis d'étonnement, d'étonnement. Et maintenant, enfin, ils commencent à comprendre la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce que Dieu nous apporte quand il nous apporte son royaume? Ah, c'est ça. Ok. On fléchit le genou. Je pense que en voyant l'infinie grandeur du royaume de Dieu, les disciples, oui, ont pu vivre leurs épreuves autrement, sans doute, et même faire face à la mort d'une manière complètement différente. Non pas en pensant que Jésus est dans ma barque et donc je ne vais pas mourir, mais puisque il est tellement grand et son royaume est tellement grand, la mort n'est pas aussi importante que cela. Qu'est-ce que la mort? Si je meurs, Paul dit à un moment donné que pour moi, ma vie est peu de chose. Et que je meurs, ça m'est égal dans un sens. Qu'est-ce qui amène un homme, une femme à parler comme ça? C'est la grandeur du royaume. C'est avoir vu le Christ dans les Écritures, domptant toutes choses, et annonçant que voilà ce que je vais faire en splendeur un jour. Attendez seulement. Que nous puissions donc avoir cette confiance en l'Éternel qui vient d'une bonne compréhension de qui il est et de ce qui l'amène, ce qu'il nous promet. Nous avons